le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 17 décembre 2014. Et enfin, nous y sommes arrivés, Gérald. C'est la 50e émission. Christophe Rollin au micro, comme tous les mercredis. Gérald est donc présent et nous avons un invité aujourd'hui, Pierre Baltassa, président de la Société de musique de chambre de Lyon. Il va nous parler pendant toute cette heure de cette saison qui a déjà commencé il y a quelques temps, c'était en octobre dernier, et qui se prolonge jusqu'à quelle date précisément ? C'est jusqu'au mois d'avril, donc différents concerts. Avec différentes choses, et notamment si vous étiez la semaine dernière à Lyon, vous avez pu entendre le quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, et c'est d'ailleurs la piste par laquelle nous allons commencer cette émission. Donc émission consacrée à cette programmation, la Société de musique de chambre. On parlera peut-être également du festival de musique baroque, le tout dirigé par Éric Desnoux. Enfin, voilà, c'est le programme de cette émission. Tout d'abord, première partie interview plus précise de Pierre Baltassa, et puis deuxième partie quels seront ces concerts encore à venir. Nous sommes bien, et vous êtes bien sûr Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous nous écoutez sur internet radiocanu.org. Nous commençons avec le quatuor de la fin du temps de l'émission, et nous continuons avec beaucoup de paroles, comme toujours, de la musique également, bien entendu. Heureusement que notre invité est bien plus mélomane que moi, mais moi aussi, je me disais bien que c'est beaucoup trop concertant, c'est beaucoup trop symphonique. Nous allons passer le quatuor pour la fin du temps. On va bien écouter ce quatuor et non pas autre chose, et nous reprenons ensuite l'émission spectaculaire 50e. Il fallait bien quelque chose de particulier pour cette 50e. Thank you. ce quatuor a toute une histoire. Nous l'évoquerons pendant cette émission. Mais pour commencer, comment appeler ça, Gérald ? Il y a une prise d'antenne qui est faite par une personne venue nous rendre visite. Je vais lui laisser la parole avant
Sauvage, mais rapide.
Avant que Pierre Baltassa présente.
Mais reviendront plus longuement peut-être à une prochaine émission.
Voilà, mais donc nous lui laissons la parole tout de suite. Mais je rappelle tout de même le grand thème de l'émission, la Société de musique de chambre de Lyon, avec les différents concerts passés, certes, mais il y en a encore à venir. Il y en a plus, je crois, qui reste que de concerts passés. Il y en avait 7 dans la saison.
Il y en a encore 4.
3 sont passés, il en reste encore 4. Voilà, Pierre Baltassa me corrige un peu. Je vous en prie. La parole donc pour une série, web-série documentaire sur la Croix-Rousse. Allez, je vous laisse montre en main, 2 minutes, hein, c'est ça, 120 secondes. Voilà, pas davantage. Non, je plaisante, je vous en prie.
Bonjour, c'est Morgane de Trabouloscope. Nous sommes une structure lyonnaise de production audiovisuelle et on a le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la sortie d'un projet transmédia qui s'appelle En Travaux. Pendant les 4 dernières années, notre équipe de vidéastes est partie à la rencontre des habitants de la Croix-Rousse pour réaliser 30 portraits documentaires. La web-série prend pour fil rouge le creusement du tunnel sous la Croix-Rousse. Aujourd'hui, En Travaux se décline sous 2 projets du même nom. La web-série, comprenant ses 30 épisodes, et un web-documentaire immersif. Le tout est diffusé depuis la semaine dernière gratuitement sur le site internet de Trabouloscope. On a le plaisir de vous annoncer dès aujourd'hui la distribution des cartes postales du projet dans plus de 300 lieux de distribution dans l'agglomération lyonnaise. Foncez récupérer la vôtre, un flash code vous conduira directement sur la plateforme web du projet. Et surtout, rendez-vous sur le site trabouloscope.org pour plus d'infos sur cette exploration multimédia au cœur de la Croix-Rousse. La structure s'appelle Trabouloscope, le projet s'appelle En Travaux et on va suivre ça de très près.
Trabouloscope.
Bon, ben tout a été dit. Alors nous mettrons des liens sur le blog pour que vous puissiez bien, auditeurs qui attrapaient l'émission peut-être en cours de route, si vous la réécoutez.
À qui avions-nous l'honneur ?
Morgane.
Mais oui,
De Trabouloscope.
Voyons, Gérald, tu as manqué le début de l'intervention. Il était bien dit que c'était Morgane. Donc je mettrai sur le blog différents liens. Il y a une durée pour tout cela.
Je vous en remercie.
Il y a une durée encore. Ça va durer combien de temps, c'est sûr.
Ce site va être disponible pendant 4 à 5 années. Donc dès maintenant, vous pouvez y aller. L'adresse, c'est entravaux-documentaire-interactif.org. Et toutes les infos sont sur notre site internet. Trabouloscope.org.
Bon, je crois que tout a été dit. Ce que je vais peut-être vous proposer, c'est pour que nous puissions laisser peut-être le temps à Morgane de filer, puisque vous nous avez beaucoup parlé. Nous laisserons tout ça sur le blog. Je mets un mouvement suivant de la quatuor, du quatuor pour la fin du temps, et ensuite nous reprenons l'interview avec Pierre Baltassa. Donc Morgane, je vous remercie bien.
Merci à vous.
Et
merci Radio Canyon.
Peut-être à une fois prochaine. Oui, ça pourrait être intéressant en janvier qu'on fasse une émission pleine et entière consacrée à ce projet. Je ne sais pas comment le nommer.
Ce serait merveilleux.
Ah. Eh bien alors, à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Gérald, je l'ai bien annoncé tout à l'heure, c'est la 50e émission de Spectaculaire. Et donc pour cette 50e, il faut que ce soit particulier, à savoir, nous avons une invitée comme ça qui vient
surprise.
En tout début d'émission,
sauvage.
Invitée surprise, qui nous annonce une expérience, quelque chose de très intéressant, certes, mais rien n'était prévu. Et puis par ailleurs, Pierre Baltassa, notre invité, pourrait me tenir bien plus rigueur de la mauvaise expérience radiophonique que nous faisons, puisque nous n'écoutons pas, nous ne réussissons pas à écouter le quatuor pour la fin du temps. Je vais essayer de savoir de quoi il s'agit. J'ai un CD sur moi qui n'est pas du tout clair et net, mais en revanche, ce que je voulais indiquer, c'était qu'il y a eu un concert qui s'est tenu le mercredi 10 décembre dernier. Ça aurait dû être à la salle Molière, qui est là, c'est en travaux. Et ce concert, je vais laisser la parole à Pierre Baltassa, président de la Société de musique de chambre de Lyon depuis, je me suis laissé dire, une dizaine d'années. Je lui laisse la parole pour parler peut-être de ce concert pour commencer, puis ensuite plus précisément bien de lui, je crois, notamment ses origines de Haute-Savoie. Je vous en prie, Pierre Baltassa, c'est à vous la parole.
Merci. Oui, on peut commencer effectivement par parler de ce concert qui était tout à fait superbe. Il invitait une formation de musique de chambre, le trio de Jérusalem, que nous avons eu il y a plusieurs années déjà, dont nous avions gardé un très bon souvenir, qui entre-temps naturellement a enregistré beaucoup de trios, les grands trios du répertoire, en particulier un enregistrement mémorable du trio de Shostakovich, et nous étions particulièrement contents de les recevoir. Ils nous avaient proposé de s'allier à une clarinettiste qui est Mariam Adam, qui est une clarinettiste d'origine des États-Unis et qui a un répertoire extrêmement étendu, à la fois en musique classique, comme on peut dire, musique classique, de clarinette classique, et beaucoup de clarinettes de jazz, de crossover. Elle s'allie à d'autres ensembles et ça lui donne une personnalité, enfin ça ne lui donne pas, mais elle le fait probablement grâce à une personnalité tout à fait particulière. Et le quatuor pour la fin du temps qu'ils ont joué tous les quatre, c'est-à-dire piano, violon, violoncelle et clarinette, a été je crois un moment d'une très intense émotion ressentie par le public, à tel point qu'à la fin de l'interprétation, personne n'avait envie d'applaudir, et que pendant 15 ou 20 secondes, ce qui est véritablement extrêmement long, un silence absolu a régné dans la salle Rameau. Et c'était un moment d'une très grande intensité. Voilà. Donc, si vous me donnez l'occasion de parler de ce concert, c'est surtout de ce souvenir que je veux parler.
Peut-être donc que cela pourrait être également une manière de vous présenter. Vous êtes, je crois, amateur ou admirateur, je ne sais quel terme employer, de Richard Wagner, n'est-ce pas son dernier opéra, l'opéra Parsifal, qui doit se terminer sans, enfin du moins le public n'applaudit pas, à Bayreuth.
À Bayreuth, effectivement, au départ, la tradition instaurée par Wagner lui-même voulait qu'on n'applaudisse pas à Parsifal, qu'on n'applaudisse pas du tout. Et depuis 20-25 ans à peu près, en tout cas depuis la reprise du festival de Bayreuth après la guerre de 39-45, c'est-à-dire en 1951, depuis la reprise à peu près, les traditions ont été un peu bousculées et le public est silencieux après les deux premiers actes, mais il laisse part à son enthousiasme ou quelquefois à sa réprobation d'ailleurs, non pas généralement pour l'interprétation musicale, mais pour la mise en scène. Il laisse part, il laisse aller, et les applaudissements sont acceptés après la fin totale du spectacle.
Vous avez donné dans cette première prise de parole, enfin deuxième prise de parole, vous avez donc évoqué tout à l'heure le quatuor pour la fin du temps, vous avez évoqué une date à l'instant, 1951. Cette date pourrait être très pertinente pour présenter également la Société de musique de chambre, mais Gérald et moi, nous aimons bien qu'en début d'émission, l'invité rappelle un peu son parcours et puis ce qui a pu le mener, donc notamment à la raison pour laquelle il vient dans l'émission, c'est-à-dire présenter la Société de musique de chambre. Je viens de parler de 1951, vous l'avez dit tout à l'heure, 1951 ou 1948, sont plus ou moins considérées comme étant les dates de naissance de l'ensemble, enfin l'ensemble de cette société, la société de musique de chambre. Vous-même, en 48 ou 51, vous n'étiez pas encore tout à fait à Lyon, hein, je crois, Pierre Balthasar.
Non, pas vraiment. Non, 48 ou 51, j'étais pas à Lyon, mais j'y suis arrivé plus tard. Mais la société, elle, est née de la volonté d'amis qui se sont réunis et qui ont voulu en quelque sorte concrétiser ce qui se passait et élargir ce qui se passait dans les certains milieux de la société lyonnaise, c'est-à-dire la pratique de la musique de chambre. Et ils ont considéré que il ne fallait pas que ça reste entièrement privé et à l'abri des salons qui s'ouvraient aux musiciens, mais que on devait porter au public tout ce répertoire de la musique de chambre qui est absolument considérable et qui renferme des œuvres d'une très grande valeur. Donc, on peut dire que cette société a une période de maturation entre 48 et 51, et qu'en 51, véritablement, une organisation est née avec des statuts de loi 1901, c'est une association qui a permis de vivre jusqu'à présent, d'ailleurs, avec des saisons de concerts, en organisant des saisons de concerts ouverte au public, à titre payant naturellement, parce que rien n'est gratuit, mais de façon très modérée, et ces concerts ont toujours eu lieu depuis l'origine, ont toujours eu lieu à la salle Molière, qui est vraiment un joyau acoustique pour la musique de chambre.
Européen, mais si je même
Ah oui, dire, c'est vraiment une salle tout à fait exceptionnelle, qui n'est pas exceptionnelle pour la vue, parce que un grand nombre de places pas loin de 150 places sont vraiment très difficiles pour voir la scène, mais partout on y entend de façon absolument merveilleuse, et cette salle était la salle utilisée comme salle de concours, comme salle de d'enseignement pour le conservatoire de musique qui était rue de Langille, c'est-à-dire immédiatement derrière la salle Molière. Et cette salle est tout à fait exceptionnelle, oui. Si je peux me permettre de vous raconter une anecdote. Nous avons reçu il y a quelques années, pour la deuxième fois, un quatuor très, très célèbre européen, étranger, et à la sortie du concert, je parle avec l'altiste et je lui dis, mais vous savez, je n'arrive pas bien à me rappeler quand vous êtes venu ici pour la dernière fois. Il m'a dit, oh mais moi je m'en rappelle très très bien, ça fait 18 ans et ça fait 18 ans que j'ai envie de rejouer Salle Molière. Donc c'est vraiment, de la part des musiciens, un endroit qui les frappe par la qualité, surtout pour les cordes d'ailleurs, qui les frappe par cette qualité à la fois acoustique et de proximité avec le public, qui est tout à fait essentiel dans ce type de répertoire.
Martha Argerich, qui est, je crois, une grande star, une grande vedette du piano, vient peu à Lyon. Il était question, il y a quoi, une dizaine d'années, elle devait passer à l'Orchestre National de Lyon, à l'Auditorium, elle n'était pas venue. En revanche, il me semble qu'elle a pris l'habitude de venir assez régulièrement dans une autre saison, concurrente peut-être de la Société de Musique de Chambre, le Festival Piano à Lyon.
Oui,
c'est Jérôme...
On ne dira pas concurrente, on dira parallèle.
Voilà, parallèle. Je n'ai plus le nom de son directeur artistique, et donc il me semble qu'elle vient,
alors c'est intéressant, Chavannes,
oui. Oui, voilà, elle vient pour jouer, mais elle ne vient pas seule, je crois. Quand elle vient, c'est plutôt au piano à quatre mains, ou c'est pour différents récitals, et je crois qu'elle aussi est très sensible à l'acoustique de cette
salle, et pas seulement la musique de chambre, puisque j'ai assisté à un grand concert de Dominique A. Oui. À la salle Molière.
Mais oui.
Il y avait un saxophoniste basse, qui l'instrument était plus grand que lui,
oui.
Avec des timbales, une batterie percussive énorme, et le son était magnifique, mais oui. Il faisait du rock quasiment industriel.
Oui, oui, bien sûr.
Et alors, donc, petit regret peut-être, vous disiez tout à l'heure, Pierre Baldassa, cette salle n'est pas disponible actuellement, c'est la deuxième saison.
Non, effectivement, depuis les... bien entendu, le bâtiment vieillit, nécessite des réparations. Le bâtiment a un siècle, quoi, à peu près, un peu plus d'un siècle. Il est naturel qu'il y ait des interventions qui soient nécessaires. Et malheureusement, la salle n'est pas disponible pour la deuxième saison. C'est la deuxième saison que nous en sommes privés.
D'autres en sont privés. Le Salon du Sud-Est aussi a dû délocaliser ses expositions au fort de Vaise, oui. Il me semble.
Et vous, c'est à la salle Rameau qui vous
Alors,
convient.
Alors, nous sommes repliés salle Rameau.
Voisine des studios de Radio Canut.
Qui n'est pas du tout désagréable, bien qu'elle soit affectée à autre chose que la musique actuellement, d'une façon générale, mais elle n'est pas du tout désagréable. On a pu, par le jeu d'écran que l'on descend sur la scène, limiter cette scène dans laquelle le son se perdait un peu, et l'acoustique est de tout à fait convenable, et je vous le dis, les concerts le démontrent, le dernier concert,
parce que
c'est le plus proche, était tout à fait exceptionnel.
Alors, si je puis réparer la chose, erreur totale de ma part, je me suis vraiment trompé de CD, c'était plutôt de CD, c'est le concert à quatre que
oui,
nous
c'est
écoutions.
Ce qui me semblait, oui, parce
ça,
qu'il y a
c'en était différentes parties, c'était, oui, voilà, mais je sais pas ce que j'ai fabriqué, donc pour écouter le quatuor.
Enfin, vous êtes pardonné, parce que le quatuor pour la fin du temps, c'est aussi un quatuor. Donc
oui, mais tout de même, oui, c'est certes, je vous remercie de la.
Et de toute façon, dans Messiaen, on entend des oiseaux. Donc on
oui, et puis Olivier Messiaen, c'est toujours très intéressant d'entendre son œuvre. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous évoquer d'autres concerts à venir, mais nous manquons à cette règle élémentaire. Avant d'arriver à, par exemple, tout à l'heure, Brahms, je vous en prie, Pierre Baldassa, quelques mots sur vous-même. Donc vous êtes à la tête de cette société depuis une dizaine d'années, et auparavant, quel parcours fut le vôtre? Qu'est-ce qui vous a conduit à cette société de musique de chambre?
À vrai dire, pas grand-chose me prédisposait, si j'ose dire, à prendre la présidence de la société de musique de chambre. Moi, je suis issu de Haute-Savoie, je suis arrivé à Lyon pour mes études en 58. À partir de 1960, j'ai été très attiré par les concerts que donnait la Société de Musique de Chambre, et d'autres d'ailleurs, que donnait la Société de Musique de Chambre, salle Rameau, salle Molière, j'allais aussi beaucoup salle Rameau, parce qu'il y avait un orchestre qui jouait salle Rameau, j'ai aussi parallèlement à mes études, j'ai toujours fait de la musique et j'étais très attiré par cette musique. Donc naturellement, vous savez, dans ce type d'association, les gens viennent écouter, mais il faut à un moment donné qu'il y ait quelques bonnes volontés qui se dégagent pour prendre quelques responsabilités, et ça a été le cas quand le regretté Jacques Brémond, qui avait assuré la présidence pendant 17 ans, et je mesure à quel point à ces 17 ans de présidence à cette époque était lourd, j'ai pris, quand il a voulu se retirer, j'ai accepté de prendre la présidence de cette société.
Alors votre voilà.
Mais mon métier n'était pas du tout de...
Et vous êtes musicien donc aussi
Moi je suis musicien amateur, naturellement.
Oui, mais quand même, mais vous jouez de quel instrument?
Voilà.
Vous jouez de quel instrument?
Je joue du violon, enfin j'essaye depuis très très longtemps de jouer du violon.
Quelle humilité.
Et votre rôle de président alors consiste
Mon rôle de président, c'était d'organiser complètement les saisons de concerts. Et heureusement, j'étais pas seul. Il y avait en particulier Brigitte Ducastel qui était très active et qui faisait un travail superbe au sein de la société. Mais C'est devenu, avec des contraintes administratives, financières, juridiques, d'une lourdeur considérable, d'autant plus qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, on assurait encore deux concerts par semaine. C'était deux fois le même concert, c'est-à-dire que chaque concert était doublé parce que le public a nécessité pendant très longtemps qu'on double, on ne pouvait pas accepter tout le monde pour un concert. Et puis, malheureusement, le public a diminué un petit peu, donc on en est revenu à un seul concert par semaine. Mais c'était extrêmement lourd. Vous pensez bien qu'organiser 7, 8 concerts, 9 quelquefois...
36 fois, concerts par an.
Oui, par an, c'était... Par an, oui. C'était quand même considérable. Et... un très bon ami qui vient de disparaître malheureusement et qui s'occupait de la société depuis très longtemps nous a suggéré de nous allier avec Éric Desnoux qui s'occupe de et qui dirige sur le plan administratif et artistique la Société des Grands Concerts de nous allier de façon à ce que on puisse alléger cette part vraiment très lourde d'organisation. Et depuis, depuis 8 ans, nous sommes donc alliés au grand concert que dirigeait Éric Desnoux. Et il en assure de toute la partie matériel, administratif, de toute la régie, tout ça. Et nous sommes associés dans l'élaboration de la saison artistique pour la Société de musique et de danse. Lui, parallèlement, a la responsabilité aussi de tout le programme qui se déroule à la Chapelle de la Trinité, qui est le programme baroque. Qui est
le Festival de musique baroque.
Festival de musique baroque, qui est un monument de la musique baroque, véritablement, parce que c'est un haut lieu de la musique baroque, dans un endroit magnifique, et il réussit de façon merveilleuse, et c'est vraiment une très très belle saison.
Il y a de très grands noms, Philippe Jaroussky, oui, le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet pour le concert de la semaine dernière.
Absolument.
Notre chroniqueuse a trouvé ce concert qui portait le titre de l'appellation Les Splendeurs Vénitiennes, puisqu'il était question d'œuvres de Vivaldi notamment. Elle a trouvé ce concert absolument splendide, et de grandes choses. J'ai souvenir d'avoir vu des passions, parce que ce festival s'étend de plus ou moins novembre, voire octobre parfois, jusqu'à mars, mai.
Ah, il couvre la saison de concerts.
Un poil plus court, il me semble. Je ne sais pas s'il y a toujours des concerts qui commencent en septembre et qui se terminent en juin, mais j'ai assisté à des passions avec Christophe Prégardien, à la fois, je crois, chanteur, ou bien, sur scène, ou bien à la direction. C'était vraiment des programmes de très grande qualité. Je suis en train de me dire, pour employer une sorte de métaphore, c'est une sorte de jeune homme, ce festival, à côté de la société, qui, elle, serait plutôt une dame d'un certain âge, bel âge. Une trentaine d'années, je crois, c'est ça, pour le festival de musique baroque, alors
oui,
que c'est...
83 pour...
Plus d'une soixantaine.
Voilà, pour le double, pour la société de musique de chambre, naturellement. Mais enfin, il y a des vieilles dames qui se portent bien, quand même, voilà.
Gérald le sait très bien. Amateur de football, moi je sais que le terme de la vecchia signora, c'est une appellation, c'est le sobriquet que l'on affuble, que l'on utilise pour qualifier la Juventus de Turin, qui est une ancienne vieille équipe de football. Pour terminer peut-être sur cette société de musique de chambre, enfin disons pour terminer, hein, pour ce qui est des lieux et des dates, nous évoquions tout à l'heure donc 1948 et 1951, donc 48 serait plus ou moins la date de naissance avec un nom. Le prénom est assez, je peine à le retenir, le prénom du fondateur de cette société de musique de chambre, c'est je l'avais sous les yeux, je vais le retrouver, un prénom peu commun, je crois. Et oui, est-ce que je l'ai sous les yeux? Non,
il m'échappe.
Moi, je vais l'avoir là,
pour l'instant.
Je vais le trouver. C'est fondé par Ennemond.
Ah oui,
Tria.
Ah oui.
Donc c'est alors directeur à l'époque du Conservatoire de Lyon. Donc
oui, il a participé.
Ennemond. Oui,
mais Bon, effectivement, je ne parlais pas de lui. Ah ben, Edmond Tria était une personnalité tout à fait marquante de
la musique
musicale lyonnaise. Il était directeur du conservatoire pendant très longtemps. C'était un très bon pianiste. Il a promu de façon tout à fait remarquable toutes sortes de musiques. Mais il s'est allié à d'autres personnes qui étaient là pour tenir aussi les cordons de la bourse, naturellement. Et c'était très important. Il y avait en particulier Monsieur Sibyl, il y a eu plus tard Maurice Jacob, et il y a eu beaucoup de personnalités lyonnaises qui ont permis que cette société est maintenant, soit encore vivante maintenant, certainement.
L'autre grand nom à Lyon, c'est Witkowski, je crois, mais ça, c'est du côté de l'auditorium.
Alors ça, c'est un peu différent, parce que...
Oui, c'est tout à fait autre chose. Donc, nous étions fin années 40, début années 50, c'est ça, pour la date de naissance, l'acte fondateur pour les débuts de cette société de musique de chambre. Gérald, oui.
Je suis désolé d'être bas de plafond, mais j'ai le programme sous le nez, et c'est important de parler des tarifs.
Oui.
Des concerts, et je remarque quand même que les tarifs sont tout à fait abordables. Série 1 autour de 30 euros, série 2 20 euros, série 3 10 euros. Donc ça met la musique de chambre à la portée de toutes les bourses, on va dire.
Oui, voilà. 10 euros, oui. Alors, d'une part, pour le plat tarif, si j'ose dire, qui est encore plus bas pour les abonnements, parce que pour un abonnement, on arrive à 25 euros, quelque chose comme ça. Donc, un abonnement de 7 concerts. Et nous avons une politique véritablement volontariste vis-à-vis des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes payent 5 euros, voilà, quand, 5 ou 10 euros suivant les circonstances, mais d'une façon générale environ 5 euros, et on essaye d'avoir le plus de jeunes possible, et c'est l'évidence même qu'il faut avoir cette politique dans une ville où il y a deux conservatoires, le conservatoire régional qui est à Fourvière, qui est vraiment un endroit extraordinaire avec 4000 élèves et qui est un endroit d'enseignement vraiment remarquable, et le conservatoire national supérieur de musique et de danse qui est dans l'ancienne école de vétérinaire sur les quais de Saône, qui est le deuxième par le nombre, c'est pas par la qualité, mais qui est l'autre, on va dire, conservatoire national supérieur, l'autre étant celui de Paris.
Nous recevions la semaine dernière Quentin Dubois, qui en est issu, oui. Et Quentin, nous pourrions le saluer, puisqu'ils ont commencé hier l'ensemble Tactus, leur série de représentations du spectacle Visage au Théâtre des Clochards Célestes. Voilà, il venait la semaine dernière, issu donc de ce conservatoire national supérieur de musique et de danse, je crois, le CNSM.
CNSMD,
voilà, c'est ça.
Voilà. CNSMD.
Aurions-nous tout dit? Oui.
Comment?
Aurions-nous tout dit, ou je vous en prie?
Je voulais à ce propos insister sur quelque chose, parce qu'on y tient beaucoup, c'est que nous essayons de faire entendre le plus possible les jeunes musiciens. Alors, bien entendu, dans les musiciens qui ont déjà acquis leur autonomie, leur réputation sur le plan national ou international, naturellement. Mais aussi ceux qui sont qui ne sont pas encore entrer dans la carrière, et pendant quelques années nous avons organisé systématiquement salle Molière. Avant chaque concert, nous avons organisé un pré-concert qui était un concert donné par certains élèves du Conservatoire National Supérieur qui venaient proposer un programme court de 45 minutes avant le concert officiel, j'allais dire. Et c'était possible salle Molière, parce que à côté de la salle Molière, il y a une salle, justement, petite salle qui s'appelle la salle Witkowski, dans laquelle nous pouvions donner ces concerts. Salle Rameau, c'est strictement impossible, cette organisation n'est plus possible, donc nous avons pris le parti d'organiser
le mercredi 8 avril,
un concert jeune chambriste. C'est eu lieu l'an dernier, ça aura lieu encore cette année, qui est réservé à certains élèves qui sont disponibles à ce moment-là du Conservatoire National Supérieur. Et on tient beaucoup parce que le public aime beaucoup avoir ce contact avec les jeunes. On voit des gens qui ne sont pas encore forcément absolument matures dans leur carrière, mais qui ont des possibilités tout à fait extraordinaires. Et c'est toujours un très grand moment à la fois d'émotion, d'amitié, voilà, que ces concerts.
Nous sommes déjà en train de parcourir donc la programmation de cette saison. Alors je vous propose eh bien, pour la continuer, puisque vous venez d'évoquer, je crois à l'instant, Pierre Baltassa, l'ultime concert de cette saison, celui du mercredi 8 avril 2015, ce sera 20h à la salle Rameau. Eh bien, commençons, enfin, faisons un peu écouter le prochain programme, puisque le concert précédent a été la semaine dernière, avec ce fameux quatuor pour la fin du temps que nous ne pourrons pas totalement écouter aujourd'hui. En revanche, nous pouvons écouter le concert à venir. C'est pas tout de suite, mercredi 25 février. Plusieurs œuvres seront données, des œuvres de Reinecke notamment et de Mahler, et puis surtout de Johannes Brahms, deux œuvres, les quatre chants sérieux, et puis surtout la grande sonate. Je vous propose donc d'entendre le premier mouvement, Allegro vivace, de cette sonate pour piano et violoncelle, numéro 2, en F majeur, j'ai en anglais le F majeur.
En Fa majeur.
En Fa majeur, très bien, opus 99. Écoutons, interprétation, je pense, de qualité, Rudolf Serkin au piano et Mstislav Rostropovich au violoncelle. Le mercredi 25 février, ce seront plutôt Manuel Fischer-Dieskau au violoncelle ainsi que Connie Shi au piano. Nous écoutons donc ce titre et puis ensuite nous entendrons les précisions que Pierre Baltassa pourra apporter sur ce concert et sur les suivants à venir. Il y en aura encore deux autres à venir avant cet ultime concert du mercredi 28 avril.
Thank you.
ce ne sera peut-être pas exactement cette interprétation qui aura lieu le mercredi 25 février, puisque ce ne seront pas Rudolf Serkin ni Mstislav Rostropovitch qui interpréteront la sonate pour violoncelle de Brahms, la grande sonate. Enfin, disons, non, je veux l'appeler grande sonate, je confonds avec
plus
l'autre.
Plus 99.
Je, voilà, certes, je confonds avec l'autre œuvre qui sera donnée, la 4 chants sérieux, mais ce sera une transcription pour violoncelle et piano. Donc, ça, c'est le concert du mercredi 25 février. Nous écoutions cette sonate, ce premier mouvement à l'instant, parce que nous recevons Pierre Baltassa, président de la Société de musique de chambre, qui est venu donc nous parler, eh bien, de cette saison 2014-2015. Peut-être même nous parlera-t-il des saisons à venir, 15-16 ou 16-17, ou dans de prochaines années, est-ce qu'on pourrait écouter, je ne sais pas. Enfin, il nous le dira. Et donc, c'est une 50e émission, donc peut-être un peu particulière. Je m'arrête là. Je vous laisse la parole, Pierre Baltassa, pour commenter eh bien, peut-être ce titre, si vous le souhaitez, ce concert à venir ou d'autres concerts de votre choix.
Oui, on vient d'entendre une sonate pour violoncelle et piano de Brahms. Effectivement, c'est parce que nous entendrons en février. En février, nous avons encore un concert un peu, non pas particulier, mais sur lequel j'attire l'attention quand même. C'est Manuel Fischer-Dieskau qui sera violoncelliste et accompagné par Konishi. Ils interprètent une transcription, comme on vient de le dire maintenant, une transcription des chants sérieux de Brahms. Il faut dire que Manuel Fischer-Dieskau, c'est le fils
Dietrich Fischer-Dieskau,
et que lui, bariton. Il a entendu dès le biberon, il a entendu les chants sérieux chez lui et dans la salle de répétition de son père.
Quel timbre, bariton ou ténor?
Bariton, oui. Qui a été la majeure de la carrière a commencé en 45, un petit peu avant, et qui c'était avec une carrière très très longue, qui a chanté véritablement à peu près tout ce qu'on peut imaginer pour bariton, et qui a ressorti des mélodies, des leaders, avec une ténacité tout à fait extraordinaire. Et son fils aime beaucoup jouer des transcriptions de leaders, et il faut dire que le violoncelle se prête particulièrement bien à ce type de transcription. Donc on n'aura pas les chants sérieux véritablement, on aurait une transcription pour violoncelle.
J'ai l'enregistrement ici, on pourrait presque écouter donc l'enregistrement de ces 4 chants sérieux, mais ce n'est pas la version transcrite qui sera jouée, c'est bien la version pour piano Daniel Barenboim, et pour bariton Dietrich Fischer-Dieskau, c'est une intégrale Brahms, mais bon, bref, c'est...
Si on a le temps...
On souhaiterait écouter du Crespin ensuite, il y a différentes choses à venir. Oui.
Ça me permet de dire une chose, c'est-à-dire que il est depuis... assez longtemps, le public s'est un peu éloigné de ce répertoire, de la mélodie et du lead allemand, de la mélodie française, des mélodies étrangères et tout. C'est un peu éloigné. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai une petite idée pour la mélodie française, mais nous aimerions beaucoup renouer avec ce répertoire.
C'est quoi l'idée alors pour la mélodie française?
L'idée, c'est que les chanteurs eux-mêmes s'en sont éloigné, et que le style de ces... qui est très particulier, très difficile, je veux dire, de la mélodie française, le style s'est peut-être un peu perdu, ou a été moins enseigné, que les chanteurs s'y sont moins intéressés, parce que ça demande un travail colossal pour des résultats qui ne sont pas ceux des grandes salles d'opéra, naturellement, et beaucoup reviennent. Beaucoup reviennent à ça maintenant. On a eu, il y a quelques années, Karine Dehaye, nous avons eu Stéphane Degout, qui est un Lyonnais d'ailleurs, qui est un des très grands barytons actuels, qui est véritablement un des premiers barytons actuels. Et j'aimerais beaucoup pouvoir arriver à reprogrammer ce type de répertoire, qui est d'une richesse extraordinaire, qui a un charme fou.
Surtout 19e, voilà. C'est ça, Ravel, Debussy éventuellement.
Voilà,
du parc Chausson,
Même Mio. On commençait par Gounod, il y a Reynald Doane, Poulenc, Messiaen, dont on parlait, Messiaen, il y a des mélodies absolument.
Et puis tous les Allemands aussi.
Et puis il y a
Winterreise et compagnie.
Plus de leaders là, alors c'est une.
Les grands chefs-d'œuvre.
Incroyable.
Pour en écouter, j'en ai amené du baroque allemand.
Ah ben je.
La chanson voilà, baroque allemande.
Si c'est possible, ce sera vraiment très, très bien.
Et peut-être.
Voilà, on peut écouter Régine Crespin. Dans
alors qui était chantant... Régine Crespin?
Régine Crespin, mon Dieu, on ne présente pas pour Régine Crespin. Régine Crespin, ça a été une des plus grandes voix du siècle. Et ça a été une des plus grandes chanteuses françaises et qui a eu une carrière, surtout d'opéra naturellement, mais qui a consacré beaucoup de temps à la mélodie et qui l'a fait de façon tout à fait remarquable. Alors si on peut écouter par exemple
le
pan
des histoires naturelles de Romain Rolland mis en musique par Maurice Ravel, ce serait vraiment très bien, c'est un bijou.
Yeah.
Voilà. Nous n'avons pas interrompu Philippe Entremont au piano, ni Régine Crespin au chant pour ce pan, dont le texte était de Romain Rolland et la musique de Maurice Ravel. Pourquoi avoir écouté cela ? Eh bien parce que pour cette 50e de Spectaculaire, Pierre Baltassa, notre invité, président de la Société de musique de chambre, souhaite nous indiquer ce vers quoi la programmation des années à venir pourrait tendre, un peu de mélodie française, puisque pour l'instant, c'est vrai que c'est assez instrumental, les différents concerts à venir. Il y a encore deux concerts, j'annonçais celui du 25 février, mais avant le 25 février, le mercredi 21 janvier, il y a un premier concert de la musique de chambre, de la Société de musique de chambre. Il en reste encore quatre, trois sont déjà passés. Et donc le programme de cette prochaine date, celui qui est à venir, la semaine dernière, le 10, c'est terminé. Haydn, Dvorak et Beethoven pour trois quatuors. Le quatuor... je ne sais pas comment les nommer pour Haydn et Dvorak. Si, le quatuor slave pour Dvorak et puis le quatuor Razumovsky pour Beethoven, interprété par le quatuor Orin. Peut-être un ou deux mots, Pierre Baltassa, sur cet ensemble.
Oui, bien sûr, parce que le quatuor Orin, c'est un quatuor qui est bien connu des Lyonnais. Notre ami luthier, qui était le grand luthier lyonnais et qui avait fondé les musicades, Jean Schmitt et son épouse Marie-Jo Schmitt, les ont invités plusieurs fois à venir à Lyon, et en particulier ils ont interprété une intégrale des quatuors de Beethoven il y a quelques années. Et nous sommes très heureux de pouvoir les entendre à nouveau cette année. Il remue à la fois de grands souvenirs musicaux, et c'est un ensemble tout à fait extraordinaire. Alors, pour le concert, qui est le concert suivant, c'est un concert qui nous tient aussi beaucoup à cœur parce que c'est une collaboration avec les solistes de l'Orchestre National de Lyon. Et ces solistes que l'on entend toute l'année naturellement au sein de l'orchestre ont une activité de musique de chambre, et nous les réunissons pour un programme très intéressant. Il y a plusieurs solistes.
Il y a un intitulé autour de la clarinette.
Voilà, donc, clarinette, pour ce programme. Clarinette, violon, alto, violoncelle, corps et piano. Et ça permet d'avoir des formations qui sont très, très, très originales, en particulier d'écouter les Weber, les Mio, et puis une musique qu'on n'entend pratiquement jamais, c'est de Nanny. Et donc, on tient beaucoup à cette collaboration, et ils nous offriront certainement un programme très 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 intéressant.
Oui, je vois. Donani fait du ragtime visiblement.
Non.
Si j'en crois par le programme.
Donani, c'est un Hongrois. Qui a une descendance d'ailleurs, parce que il y a
chef d'orchestre,
chef d'orchestre,
je crois,
actuel,
oui.
Qui est le fils ou le petit-fils de ce compositeur, le petit-fils de ce compositeur, et qui a une musique qui a composé une musique très très dans les gènes, comme on dit, de la musique hongroise, mais qui est vraiment très très intéressante, et c'est un maître de la musique de chambre certainement.
Nous parlons du programme, le concert qui aura lieu le mercredi 18 mars 2015 à 20h à la salle Rameau, non pas la salle Molière. Et effectivement, là, je parcours des yeux les noms de ces solistes, et je reconnais Elisabeth Rigolet qui sera au piano, ainsi que Nicolas Hartmann au violoncelle. Je reconnais leurs noms pour les voir souvent voir sur scène à l'auditorium. Et ce concert proposera, vous l'avez dit à l'instant, des formations très différentes, du trio jusqu'au sextuor, en passant par le quintet et puis la suite en trio. Voilà. Ce sera très intéressant. Nous mettrons toute cette programmation en ligne sur le blog. Et puis je ne sais pas, je me dis presque que nous avons presque tout dit. Enfin, nous n'avons pas tout dit, parce qu'il nous manquerait peut-être de dire quelques mots, et vous pourriez peut-être le faire, je pense, Pierre Baltassa. Nous pourrions dire quelques mots de l'autre partie de cet ensemble des grands concerts, enfin cet ensemble de cette, oui, manifestation des grands concerts, oui, le Festival de musique baroque, puisque c'est un peu le concert de la semaine dernière auquel, certes, nous avons parlé de celui du mercredi, moi j'évoque celui de vendredi auquel s'est rendue notre chroniqueuse, un concert à les splendeurs vénitiennes avec le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. Donc ce concert, lui, s'inscrit davantage dans cette saison. pour siéger au conseil d'administration, c'est ça? Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Et puis je crois qu'on va arriver en fin d'émission.
C'est un... Éric Desnoux a réussi à établir une, depuis de nombreuses années maintenant, une programmation tout à fait remarquable de musique baroque avec des ensembles de plus ou moins grands effectifs de musique baroque qui vont, on va dire, de la musique de chambre baroque à l'opéra, puisqu'on a entendu il y a très peu de temps
Scylla et Glaucus,
Scylla et Glaucus
de Jean-Marie Leclerc.
De Jean-Marie Leclerc, et je dois dire que Scylla et Glaucus, Jean-Marie Leclerc, et il y a pratiquement il y a que les Lyonnais qui ont entendu Scylla et Glaucus de Jean-Marie Leclerc, parce que Gardiner avait programmé ça à l'Opéra de Lyon il y a une trentaine d'années à peu près, 25 ans, je ne me rappelle plus exactement.
Donc encore des Lyonnais.
Et depuis ce moment-là, on l'a plus jamais entendu, et on l'a entendu l'autre jour par d'une façon tout à fait extraordinaire, ce qui montre que cette œuvre de Jean-Marie Leclerc, qui est un Lyonnais, est vraiment essentielle dans l'opéra français.
Vous pouvez lire la plaque commémorative consacrée à Jean-Marie Leclerc vers la fontaine qui est juste derrière l'église Saint-Nizier.
Oui, absolument.
La paroisse où il a dû naître, au 18e.
Malheureusement, cette plaque est presque complètement effacée.
Il faudra la restaurer.
Il faut la restaurer. Mais c'est un musicien de première grandeur, véritablement. C'est un des pères du violon moderne.
Il faudrait préciser quand même que tous les concerts de Festival de musique baroque, un programme très éclectique, très intéressant, se déroule à chaque fois à la chapelle de la Trinité, qui est un très très beau lieu à Lyon, magnifique,
ah oui,
baroque,
magnifique.
Une magnifique chapelle.
Magnifique.
Et ce soir, d'ailleurs, il y a un conte de Noël russe pour commencer la période de Noël, avec la Société philharmonique de Saint-Pétersbourg.
Oui.
Le corps orthodoxe de l'Avent.
Arriveras-tu à prononcer le nom de la chef,
la chef,
la directrice?
Kutoretskaya, bien sûr.
Bon, mais très bien, Yulia.
Yulia Kutoretskaya.
Prénom assez simple. Moi, je voulais dire un seul mot pour ce concert du mercredi 19 novembre qui a eu lieu, le concert de Scylla et Glaucus. Nous pourrions nous réjouir, Gérald, parce que je crois qu'il est question que nous recevions Sébastien Desrains, qui est à la direction des Nouveaux Caractères, pour un spectacle qui aura lieu. Il se déplace, il est en résidence, je crois, à la Chapelle de la Trinité, oui, avec le Festival de musique baroque, mais il était également, ce sera la deuxième année, je crois, qu'il fait des spectacles avec le Théâtre de la Croix-Rousse. Et comme nous sommes en très bon terme avec le Théâtre de la Croix-Rousse, il est question qu'en avril prochain, nous les recevions pour un projet très étrange autour de Purcell et de bandes dessinées. Nous verrons cela.
On en reparlera parce que le 17 mars, il y aura aussi à la Chapelle de la Trinité un concert de musique ancienne d'Irlande, avec chant, violon, harpe irlandaise, harpe, oui, baroque, viol de gambe, archilute.
Et alors pour le coup,
ça a l'air intéressant aussi.
La chanteuse est une chanteuse qui peut être davantage connue des amateurs de pop et de rock, parce que Rosemary Stanley du groupe Moriarty n'est pas exactement dans le répertoire classique. Je suis assez convaincu que ça lui tient tout de même à cœur, mais ça n'est pas tout à fait son répertoire.
Il nous reste beaucoup de temps, puisque Pascal du Blues de Canu n'est toujours pas arrivé, donc on va pouvoir écouter un lead de baroque allemand, un début de chanson,
puisqu'on a écouté
de la chanson française, la mélodie française, le début d'un lead allemand de Albert.
Générique, je crois que Pascal arrive.
Lead baroque allemand, et puis peut-être un début de Jean-Marie Leclerc pour finir en beauté.
Ça va être compliqué.
Pascal, un team de Simon Dard.
Pascal est déjà là, Gérald.
Allemand.
technique italienne de la monodie.
Je connais pas ça.
On déborde tout à fait. Gérald, tu nous indiquais de quoi était question, c'est très bien. Auditeurs, vous retrouverez à la fois l'émission et puis vous retrouverez aussi des précisions sur le blog au pluriel, blog.radiocanu.org/spectaculaire. Vous pourrez réentendre cette émission avec Pierre Baltassa et vous pourrez donc également voir où vous rendre sur quel lien pour connaître encore la programmation détaillée des concerts à venir. En revanche, ce que je puis vous dire, auditeurs, c'est que mercredi prochain et le suivant, relâche de l'émission spectaculaire.
Et les fêtes arrivent.
Il y a également Pascal qui arrive. Il est 15h03, mon Dieu.
Et n'oubliez pas d'aller voir le traboulescope.org.
On n'a jamais autant débordé. Très bien, Gérald. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Je souhaite à Pascal une bonne émission. Et puis, auditeurs, je vous souhaite de bien rester sur Radio Canu parce que j'ai pas encore trouvé le truc, Gérald, mais vous êtes sur Radio Canu et vous avez raison. Et vous faites bien.
Et c'est fini.
Bonne fin d'année. À l'année prochaine. Au revoir tout le monde. Et merci, monsieur Baltassa.
Boutignard.